Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
C'est comme Tony Parker qui me dit la finale de NBA, au final, c'est que du basket. Et justement, il rappelle à son cerveau que c'est un jeu tranquille.
C'est une force. En fait, vous n'avez pas de problème. Vous avez peut-être des problématiques et aujourd'hui, c'est peut-être de là qu'on va partir, mais vous n'avez pas de problème en tant que tel.
Si on est tous ici autour de la table des entrepreneurs, on s'est tous cassé la gueule. Il y a des moments où on a eu besoin de regarder les interdits, les permissions qu'on ne s'était pas données pour justement se dire « Ok, celle-ci, il faut que je me la donne ».
Toutes les stratégies marchent, mais toutes, mais pas pour tout le monde. Et que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le fait du mieux-être et de la santé mentale, c'est à chacun de trouver ce qui résonne pour lui à l'instant T.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver sur BFM Business pour un nouvel épisode du podcast des indépendants et aujourd'hui on va s'intéresser à la manière dont on fonctionne. Poids des responsabilités, prise de décision illimitée, engagement, image, argent, les entrepreneurs sont sursollicités par l'extérieur mais aussi par eux-mêmes. Pourtant, l'attention qu'on porte à notre propre fonctionnement est souvent très limitée. Être curieux de son fonctionnement, c'est l'objet de cet épisode entre psychologie et développement personnel et pour en parler, quatre invités que je laisse Ombline vous présenter.
Premier invité, David Laroche a fondé la plateforme Paradox, qui associe développement personnel et intelligence artificielle en analysant chaque échange avec l'IA. La plateforme revendique plus de 30 000 clients. Passionné de neurosciences et très suivi sur les réseaux sociaux et YouTube avec plus de 900 000 abonnés, David y partage des vidéos pour réformer le développement personnel qu'il juge poussiéreux et souvent peu crédible en l'associant à une approche plus scientifique. Deuxième invité, Christelle Albaré, célèbre psychologue dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2. Christelle est aussi connue pour son implication dans les questions de santé mentale avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Christelle milite pour la santé intégrative qui consiste à associer plusieurs méthodes, conventionnelles ou non, pour prendre soin de l'individu dans sa globalité. Troisième invitée, Vanessa Gello, 44 ans, aujourd'hui coach certifiée et formatrice en human design après avoir exercé en tant que notaire associée pendant 17 ans. Un beau métier et une réussite financière dont elle perd le sens. C'est en se questionnant sur le sens et la manière dont elle fonctionnait, qu'elle découvre le Human Design comme une grille de lecture structurée du fonctionnement humain. Aujourd'hui, elle transmet cet outil de connaissance de soi et accompagne plusieurs centaines d'entrepreneurs et de CEO à comprendre leur fonctionnement intrinsèque pour bâtir un business rentable, durable et porteur de sens. Quatrième invitée, Solène Feg, 30 ans, autrice et formatrice, visage connu dans l'écosystème entrepreneurial féminin. Solène se passionne pour ce qui la caractérise, la multipotentialité. Une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs qui enchaînent les idées et les projets. Depuis 2019, Solène accompagnait les entrepreneurs qualifiés de dispersés et qui sont poussés à choisir ou à se nicher. Sa conviction, la pluralité est une force, il faut simplement apprendre à la structurer.
Je suis ravi de vous accueillir pour parler fonctionnement. Je l'ai dit en introduction, on va aborder la question de la psychologie parce qu'on a une psychologue sur le plateau, Christelle, mais aussi du développement personnel parce que les deux finalement ne sont pas incompatibles, au contraire. Mais la première question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'au fond, quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, cette question du fonctionnement intérieur, on ne le met pas pendant très longtemps de côté jusqu'au moment où on se rend compte que ça serait peut-être bien de s'y intéresser, Christelle?
En ce qui concerne la psychologie, en règle générale, on vient souvent la première fois questionner la psychologie et la thérapie en mode pompier, c'est-à-dire quand on se retrouve dans une situation d'urgence. Et parfois, ça donne lieu derrière à se dire « Ok, mais en fait, c'est super intéressant et il y a des choses que je vais avoir besoin de comprendre de moi pour plus subir ma vie, mais en fait, tout simplement, pouvoir avancer sur mes nouveaux chapitres de vie et que ça fasse sens. »
Mais c'est un déclic quand même. Est-ce que toi, David, dans tes clients, est-ce que tu vois aussi des clients qui arrivent, ça fait des années qu'ils entreprennent, ça fait des années en fait qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc qui ne marche pas et ils ont envie de mieux comprendre comment ils fonctionnent?
Le monde, il a changé. Aujourd'hui, il y a deux types de profils, parce qu'on voit de plus en plus d'exemples de Teddy Riner qui se fait accompagner, d'entrepreneurs qui se font accompagner. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont un vrai désir de performance et qui se disent, dans les ingrédients de la performance, le mental, il est indispensable. Donc là, il y en a beaucoup. Et après, il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent parce qu'il y a un conflit d'associés, parce qu'on est proche de la faillite, il faut trouver des solutions créatives, parce qu'on est stressé, on le dit pas assez. On glorifie l'entrepreneuriat, on ne voit que la partie belle de l'iceberg. Mais la réalité, c'est que je regardais un rapport, il y a plus de 50% des entrepreneurs qui sont stressés, fatigués, épuisement physique ou mental, et c'est plus que d'autres populations en France. Et donc oui, en fait, souvent, la personne, elle est bloquée et elle cherche des solutions à la fois stratégiques, mais aussi mentales.
Et c'est ça qui nous amène aussi à ces questions de développement personnel. Solène, toi, t'es multipotentiel. Et typiquement, on peut aussi identifier dans les moments où ça va pas. On se rend compte finalement, bah, par exemple, qu'on a ce type de... Comment dit-on du coup ? C'est quoi ? C'est une pathologie ?
Non, c'est plutôt une neurodivergence. Une pathologie, ça sonne tout de suite problème médical, quelque chose de presque grave. Or, c'est pas du tout le cas. La multipotentialité n'est pas du tout un problème en soi. Tu sais, maintenant, on parle beaucoup des neuroatypies. Alors, ça a été pas mal galvaudé avec tout ce qui est TSA, TDAH, etc. Moi, c'est pas du tout ma spécialité. Et en plus, la multipotentialité n'est pas reconnue comme une neuroatypie. En tout cas, pas aujourd'hui, au moment où on tourne ce podcast. Par contre, on reconnaît, et ça a été reconnu par quelques chercheurs en 72, que en effet, il y a un mode de fonctionnement cognitif qui peut être un petit peu différent, qui a été pas mal attaché à la douance à l'époque et qui s'est un petit peu perdu sur le moment. Donc, on a confondu un petit peu ce fameux HPI multipotentiel qui, en fait, n'est pas du tout la même chose. Mais ce n'est pas une pathologie non plus.
Christelle ?
Je voudrais quand même repréciser. Il y a ce qu'on appelle les pathologies, les troubles et une particularité de fonctionnement. Je vais être quand même claire là-dessus. Je mets un peu mon coup de gueule, mais on ne peut pas pathologiser tout. On ne peut pas se dire le multipotentiel, c'est un mode de fonctionnement. On ne peut pas mettre à chaque fois, se dire j'ai un problème parce que j'ai tel mode de fonctionnement. Mmh. On a tendance à vouloir mettre un mot sur chaque chose en disant je suis HPI, je suis HPE, je suis TDAH.
On a tendance à vouloir tout
mettre
nommer
dans une
par
case,
un terme médical.
Mais c'est surtout à le voir uniquement comme un symptôme et comme un problème et donc à se pathologiser. Et ça, c'est dangereux. On va juste se dire, parce qu'en fait, ça crée de l'anxiété, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress, ça crée de l'isolement parce qu'on a le sentiment qu'on va se focaliser là-dessus et donc pendant tout ce temps, au lieu de chercher notre mode de fonctionnement et la relation avec l'autre, on a tendance à se recentrer sur soi. Mmh. Donc ça, je voudrais qu'on puisse quand même le dire. Après, sur la particularité, et ça qui est intéressant, une fois qu'on a dit ça, le côté multipotentiel, par exemple, ce qui est génial, c'est que ça permet, et je pense que tu le diras mieux que moi, mais de pouvoir, une fois qu'on met les mots dessus, se dire en quête, d'un seul coup, ça devient une opportunité et non plus une contrainte. Exactement. J'aime bien cette façon de le transformer.
Ouais. Mais en fait, tu sais, c'est le paradoxe des étiquettes. C'est que l'humain a horreur d'être étiqueté. Et en même temps, une fois qu'il découvre une étiquette et une petite boîte dans laquelle ils se font bien, ça le rassure et ça vient valider quelque chose. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on doit attacher toute notre identité à ça ? Non, et je pense que nos philosophes le diront bien mieux que nous. Paul Ricoeur, qui a pas mal étudié la question, te dira absolument que non, ton identité, elle est assez mouvante. On ne peut pas figer l'identité dans une seule petite case en se disant « je ne suis que ça, ça serait trop triste ». Donc je suis vraiment d'accord et j'appuie sur les propos de Christelle sur ça. Ouais.
C'est vrai qu'on a tout de suite tendance à se définir comme multipotentiel ou TDAH. On voit qu'il y a une grosse tendance. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on s'intéresse, on cherche à comprendre aussi sa propre psychologie quand on n'est pas bien.
Exactement.
Et c'est notamment ça, Vanessa, toi, t'accompagnes des entrepreneurs. Tu disais, beaucoup d'entrepreneurs construisent des business performants à court terme, mais incompatibles avec leur manière de fonctionner. Il y a cette idée, il y a cette recherche, en fait, de se dire, mais moi, j'ai pas envie de continuer toute ma vie en tant qu'entrepreneur si c'est pas aligné avec ce que je veux vraiment.
C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai moi-même vécu lorsque j'étais encore notaire associée, à perdre du sens dans ce que je faisais, à cocher toutes les cases et à me retrouver totalement vide à l'intérieur, de plus savoir ce que je faisais là. Et aujourd'hui, c'est hyper important et je crois que de plus en plus d'entrepreneurs se posent la question, ok, il y a cette métrique externe où tout est coché, il y a les chiffres, il y a la réussite. Pourquoi je suis pas heureux ? Et il y a une vraie incompréhension par rapport à ça, de dire, mais en fait, je me rends compte que j'ai suivi des injonctions, j'ai créé une magnifique machine, j'ai écouté tout ce qu'on m'a dit de faire en marketing, en stratégie, etc. Mais finalement, à aucun moment, je me suis dit, mais moi, j'avais envie de quoi et je voulais créer quoi ? Et c'est vraiment là, moi, que je veux amener un petit peu de compréhension et de connaissance pour aller vers un succès qui est plus sur mesure.
Et c'est là que c'est intéressant de comprendre son fonctionnement parce qu'on peut mettre des choses en place qui sont parfois des paradoxes, d'ailleurs. Je pense notamment au fait que comment ralentir, c'est ce que tu me disais en préparant cet épisode, David, que ralentir, en fait, ça permet d'accélérer.
Il y a beaucoup de profils dont je fais partie qui adorent la performance, qui adorent accomplir des buts, les fixer et les accomplir. Et donc, on a tendance à beaucoup d'entrepreneurs à penser que la clé, c'est d'être une machine de productivité. Mmh. Tu bosses jour, nuit, week-end, Noël. Moi, j'ai bossé pendant mes noces, j'ai bossé pendant 15 ans de manière intense. Ça marche pendant un temps et c'est vraiment un peu un paradoxe. C'est qu'au début, clairement, travailler, ça crée des résultats. Sauf que quand tu commences à te fatiguer, tu perds en fonction cognitive, t'es moins rapide. On considère qu'on perd, entre guillemets, 10 points de QI. Alors, pas réellement, mais quand on est stressé, anxieux, fatigué, on a pas la même capacité de décision. On tend à prendre des décisions basées sur ce qu'on faisait par le passé. On tend à être plus court-termiste, parce que c'est l'amygdale qui se met en fonctionnement, qui est un peu noir-blanc, c'est un danger immédiat. Je suis pas en train d'essayer de me dire comment je réinvente le succès de ma boîte sur les 10 prochaines années, j'essaie juste là de survivre. Et donc effectivement, paradoxalement, moi, les gens que j'accompagne souvent n'ont pas de problème d'action ni de motivation, c'est plutôt l'inverse. Et en fait, on se rend compte que Il y a un livre que j'adore qui s'appelle Why We Sleep d'un chercheur qui a dédié sa vie au sommeil et qui montre comment une bonne nuit de sommeil, ça augmente ta créativité, ça augmente ta concentration. Et moi, pendant longtemps, j'avais du mal à aller m'endormir. Je me disais, putain, ça serait trop cool un monde où je dors pas, en fait. En fait, on se rend compte que dans l'histoire, plein de gens qui ont marqué l'histoire, ça peut être un Einstein, ça peut être un Archimède, ce sont pas des personnes qui étaient des machines à bosser tout le temps. Elles bossaient beaucoup, mais elles prenaient du temps pour marcher, pour lire, pour aller se balader en forêt, pour prendre une douche, pour méditer. Et que ça aussi, ça fait partie de la productivité. J'ai eu trois phases. Il y a la phase de « il faut pas que je me repose », puis la phase de « il faut que je me repose, mais pour ma santé ». Et en fait, aujourd'hui, c'est prendre soin de moi. Ça fait partie de ma job description en tant que chef d'entreprise. Ça fait partie de ce que j'ai à faire.
De mon job, quoi.
De mon job, exactement.
Quand on préparait l'émission, et tu me disais, on va parler de la psychologie du CEO, je me disais, mais en fait, on ne se rend pas compte, mais un indépendant, un entrepreneur, quelque part, il y a une chose qu'il ne sait pas, c'est que c'est une personne qui est une personne exposée, comme une personnalité publique en réalité, mais qui s'ignore. Il fonctionne en tant que personne exposée, déjà, il n'en a pas la conscience et en plus, il n'a pas l'outillage, il n'a pas l'équipement pour faire face. Un indépendant d'aujourd'hui, il faut qu'il soit le meilleur communicant. Il faut qu'il soit le référentiel pour ses équipes. Il faut qu'il soit aussi solide et disponible pour sa famille. Il y a tellement de choses. OK, donc il faut que je m'expose. Mais on ne se rend pas compte derrière de ce que ça engendre en réalité. Et derrière, on peut se mettre justement dans des zones qui ne sont pas les nôtres. Et là, on ne sait pas quand, mais il va y avoir ce craquage.
Tu me disais aussi, Solène, en préparant, que c'était pire pour les femmes.
En fait, ce n'est pas les mêmes enjeux. L'idée, ce n'est pas, tu sais, de prendre une ligne et de se dire « Oh, nous, on vit pire que vous ». C'est juste que pour moi, les enjeux sont complètement différents parce qu'en fait, on ne vient pas avec les mêmes conditionnements. Une femme n'a eu le droit d'ouvrir un compte en banque solo qu'à partir de 65. Donc déjà, juste, il faut quand même se rappeler qu'on a ce truc-là, mine de rien, qu'on se traîne par rapport à l'argent. Argent, réussite, une entreprise, une femme qui gère une entreprise. Enfin, tu vois, les liens sont assez vite faits, mais ça, enfin, moi, je sais que j'accompagne pas mal de femmes qui viennent sans même forcément être consciente de ça, avec toutes ces injonctions sociétales, tu vois, d'une femme n'a pas vraiment le droit, même si ça se déconstruit, hein, on s'entend, mais n'a pas vraiment le droit de gagner plus que son mari. En plus de ça, c'est cliché, mais il y a la charge mentale. Donc moi, j'accompagne aussi beaucoup de femmes qui sont aussi mamans à côté, etc. Et en fait, il y a tout ça qui s'accumule et qui crée des espèces de... pas de montagne d'angoisse, mais presque, en fait, tu vois, parce qu'on joue pas sur le même terrain. Donc, est-ce que c'est pire? Je ne sais pas, mais c'est différent. Et je pense que c'est une différence qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, sans forcément dire, nous, on vit pire que vous, tu vois, mais peut-être trouver des solutions, quoi.
Vanessa?
Je rebondis totalement sur ce que dit Solène, parce que moi, je le vois vraiment avec mes clientes. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'apprendre à se connaître et d'aller à la rencontre de son fonctionnement, faut vraiment le voir comme enlever des couches d'oignons. D'attentes, d'injonctions, pour essayer de dire, OK, une fois que j'ai enlevé toutes les attentes de la société, de ma famille, de mes enfants, de mes amis, moi, je suis qui? Moi, je veux quoi? Comment je fonctionne? Et retrouver un peu de... moi, j'appelle ça de la puissance personnelle, retrouver un peu de liberté au milieu de tout ce bruit ambiant pour essayer de construire quelque chose qui est juste, quelque chose où on se sent bien. Et finalement, je pense que si on est tous là autour de ce plateau à avoir voulu entreprendre, c'est qu'on a envie de vivre quelque chose de différent et tu le partageais en story ce matin, de s'éclater à venir faire notre job et qu'il n'y a plus de dimanche soir. Moi, je suis un peu comme David, moi je bosse tout le temps, mais j'adore ça. Il n'y a plus de dimanche soir, il n'y a plus de lundi, il n'y a plus de... c'est que du plaisir, mais ça n'est pas toujours le cas. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va chercher tout de suite à avoir une compétence, à faire, à faire, à faire, à faire. Et on ne prend pas le temps de faire un temps de recul et dire, mais en fait, j'ai envie de construire quoi?
Là, sur le plateau, il y a des personnes en développement personnel et il y a une psychologue. Est-ce que les deux se complètent?
Alors déjà, je tiens à préciser que je ne me reconnais pas spécialement dans la case développement personnel. C'est-à-dire que c'est une case qui est utilisée. Moi, en fait, les gens que j'accompagne, c'est souvent un accompagnement autour de la performance. C'est-à-dire les aider à... c'est quoi le meilleur moyen d'avoir accès à tes ressources et définir une stratégie qui permet d'aller à un point A, à un point B. Donc, par exemple, je vais accompagner des gens sur... un des trucs que j'adore faire, c'est... on va regarder ton calendrier sur 30 jours. On va voir toutes les tâches que tu fais. Tu vas les lister, je parle en tant que CEO. Et on va prendre deux colonnes. Une première colonne, c'est à quel point ça t'inspire, la tâche que tu es en train de faire. Et la deuxième colonne, à quel point ça a de l'impact, à quel point c'est stratégique. Et ça fait un cadran avec quatre cases. Donc, enfin, en tout cas, j'ai du mal à répondre à la question développement personnel versus, par exemple, psychologie. Je suis partisan de l'intégration. Je pense qu'il y a des milliers de thérapies, d'accompagnement, de méthodologies, business, professionnels dans le sport. Pour justement accompagner au bien-être et à la performance, on a besoin d'intégrer le meilleur de plein de techniques. On est tous différents. On a des parcours différents. il y a des moments de notre vie où une méthode marchera plus qu'une autre. On parlait de cases. Moi, je suis anti-cases. Moi, je pense que là, il s'agit de trouver ce qui marche pour soi, tester plein de choses, enlever ce qui n'est pas pour soi et c'est valable. Dans un métier, en fait, il y a des gens, ils sont dans le bon métier, mais ils acceptent tout un tas d'injonctions qui n'est pas pour eux. Moi, je suis pour vraiment cette idée de Nietzsche, en fait. Deviens qui tu es, en fait. Deviens toi-même.
Je pense qu'en effet, l'objectif n'est pas d'opposer. Moi, je milite vraiment pour ce qu'on appelle la santé intégrative. Mais la santé intégrative, eh bien, elle est propre à chacun. C'est quoi la santé intégrative? C'est que c'est multifactoriel la façon dont on est bien en santé à différentes périodes de notre vie. Dire par exemple, je suis aujourd'hui un entrepreneur et je vis une période de chaos émotionnel, une épreuve de vie, d'accord ? De quoi j'ai besoin ? Peut-être qu'au démarrage, par exemple, pour moi, faire le pas d'aller voir un psy, c'est un peu difficile pour l'instant parce que c'est trop tôt, je ne me sens pas prêt. Bah, peut-être que d'abord, d'aller voir un coach pourrait être une première étape et puis que ça va répondre à une problématique très opérationnelle. Et puis après, qu'on se rend compte qu'il y a une limite et qu'il y a des traumatismes de vie, des éléments du passé qui se reproduisent. Là, ça va être le terrain clinique du psy. Il y a des addictions, il y a des troubles du comportement alimentaire. C'est le terrain du psy de pouvoir agréger cela. Mais c'est aussi se dire ok, à un moment donné, je vais aller chercher un coach sportif pour pouvoir être mieux dans mon corps, je serai mieux dans ma tête. Ensuite, eh bien, je vais aller me faire un soin du visage et je suis désolée, ça fait partie de la santé intégrative. Je me mets un masque à LED, ça me fait du bien. Quel que soit l'endroit par lequel on passe, même aller faire une formation en philo, lire un bouquin, c'est un point de départ. C'est exactement comme se dire, ok, quelque chose qui m'a toujours mis un petit peu en colère, c'est il y a les romans de gare et puis il y a le littéraire. Ben, je suis désolée, mais en fait, le roman de gare, il arrive à certains moments de notre vie, il peut être bien. Et puis peut-être que, par exemple, pour certaines personnes, ça sera la voie par laquelle, eh bien, après, on va apprécier de lire un Zola, de lire d'autres littératures.
Solène, qu'est-ce que tu penses de cette complémentarité typiquement ?
Ben moi, je suis d'accord avec David. En fait, on essaie pas mal de pas d'opposer, mais moi, je me reconnais pas trop non plus, tu vois, dans la case dev perso. Mais tout à l'heure, en même temps, on a besoin de s'étiqueter déjà nous-mêmes et on a besoin que les autres le fassent quelque part parce que sinon, c'est difficile. On a besoin de cohérence, en fait, finalement. Donc, quand on ne sait pas où nous mettre, c'est un peu incohérent pour l'humain. Il aime pas trop ça. Donc, mais moi où tu veux, j'ai envie de te dire. Je trouve ça assez dommage qu'on oppose un peu des disciplines comme ça, qui pour moi n'ont pas à être opposées et que, comme dit Christelle, je pense que...
Bah, ici, on ne les oppose pas en tout cas.
Non, bien sûr, pas ici, mais de manière générale.
L'idée de l'épisode, c'est aussi d'avoir de la réflexion par rapport à son mode de fonctionnement. Et cette réflexion, elle peut être abordée de plein de manières.
Exactement.
En psychologie, de plein de façons, en développement personnel ou un autre terme, de plein de façons, en recherche de performance, en se posant aussi sur son planning et en voyant ce qu'on peut aménager. En fait, c'est arrêter d'avoir la tête dans le guidon et arrêter de négliger la manière dont le cerveau tourne.
Complètement.
Et surtout, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, de comprendre que, comme dans l'entrepreneuriat, toutes les stratégies marchent. Mais toutes, mais pas pour tout le monde. Et que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le fait du mieux-être et de la santé mentale, c'est à chacun de trouver ce qui résonne pour lui à l'instant T. Ça sera encore une fois une porte d'entrée, comme le dit très justement Christelle. Et de pas, en tout cas, dans l'esprit des gens, ne pas mettre de snobisme intellectuel ou de scientifique, pas scientifique. Exactement, de juste dire, ok, moi ça me fait du bien, que ça soit un roman de gare, que les masques LED, je suis à 100% pour, ça marche, génial. Encore une fois, un outil, pas d'outil, un psy, un coach. Mais tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. Et le but, c'est d'aller à cette question... De quoi j'ai envie et qu'est-ce qui bouge dans mes tripes, qu'est-ce qui résonne pour moi.
J'aimerais qu'on continue cet épisode en donnant des conseils très pratiques pour ceux qui nous écoutent. C'est d'ailleurs ce que tu fais beaucoup dans tes contenus, David, et donc c'est un peu actionnable en fait. Il y avait d'ailleurs une vidéo que j'avais vue sur le cortex préfrontal et l'amygdale qui nous permet aussi de comprendre comment notre cerveau fonctionne. C'est vrai que cette info m'a passionné. Je t'en ai parlé là-dedans.
Moi, ça m'a passionné. C'est pour ça que ça a donné le nom de ma boîte Paradox. Hein, c'est que, effectivement, et c'est encore une fois très schématique, notre cerveau, c'est plein de zones. Mais on fait schématique deux zones. Une partie plus primitive, qui va être sur le court terme, qui va être de manière binaire. Donc, ton collègue, il est soit gentil, soit méchant, et soit excellent, soit nul. Donc, on met tout dans deux cases très extrêmes. Ou alors, notre cortex préfrontal, qui est la partie la plus devant du cerveau, c'est la partie du cerveau qui a le plus évolué entre les primates et nous, et qui permet quoi ? Vision, stratégie, capacité d'empathie, c'est la capacité à voyager, mettre dans les chaussures de Christelle et pouvoir voir le monde.
Je te remercie pour ton empathie.
Avec plaisir. Et donc, en fonction de mon niveau de stress, je ne vais pas être en train de solliciter les mêmes parties de mon cerveau. Sauf que l'amygdale, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour réagir à un danger. Or, un danger dans la préhistoire, c'est quoi ? C'est un tigre, c'est un lion, c'est une attaque. Aujourd'hui, c'est ça qui est fascinant, c'est que...
C'est plus rare dans le métro.
C'est beaucoup plus rare dans le métro, sur un plateau. J'ai pas de tigre. Mais on a créé une société où on a plein de facteurs de stress. On est tout autant stressé, ça se trouve, que l'homme de la préhistoire ou la femme de la préhistoire. Mais en réalité, la plupart de nos dangers ne sont pas immédiats. Or, l'amygdale, elle est construite pour répondre de manière immédiate. Il y a un ours qui me court après, il vaut mieux que j'ai de l'oxygène dans les muscles et que je cours. Mon système immunitaire, pas si important, la créativité, pas si importante. Mais développer une boîte, c'est pas un enjeu maintenant. Même si moi, j'ai mon anxiété de mon trésor, la réalité, c'est que ce soir, ça va aller. J'ai beaucoup d'entrepreneurs que je vais accompagner, ils viennent me voir. Là, j'en ai un, il a créé une licorne, il l'a revendue, donc une boîte à plus d'un milliard. Il est dans une nouvelle boîte, c'est la galère. Et quand je l'ai au téléphone, moi, je lui ai dit, t'es meilleur que moi sur ton industrie, t'es brillantissime, je n'ai même pas ton parcours. Et donc, ce qu'on va faire dans les 30 premières minutes, c'est déjà que tu retrouves de l'oxygène. C'est-à-dire qu'on va respirer ensemble et on va essayer de le regarder sous un autre angle, un angle qui complète la vision. J'adore la CBT, c'est Cognitive Behavior Therapy. Donc l'idée de regarder les choses de manière suffisamment objective, ce qui va se passer, c'est que d'un coup, il va se rendre compte qu'il n'est pas en danger. En fait, il a de la trésorerie pour plusieurs mois, il a du temps, et là, il va respirer. Et dans ce moment de respiration, je sais qu'on vient d'avoir accès au cortex préfrontal, qui va permettre de passer dans un deuxième mode du coaching, qui est, ok, maintenant finalement, c'est plus une menace, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est un défi intellectuel que tu peux résoudre. Et si on faisait de ce moment de trajectoire professionnelle, le moment symbolique de ton parcours. Et là, il passe d'un mode où il est en train de suffoquer et de s'agiter, et il est dans le court terme, à un mode où il commence à être créatif et il se dit, tiens, mais en fait, je pourrais faire un discours auprès de mes équipes, en mode, je vais leur raconter la remontada de Barcelone, et je vais fédérer, ça va devenir un moment de cohésion, de connexion, de créativité, je vais même engager mes clients. Mmh. Ça, c'est impossible quand tu es en mode survie.
Et c'est pas qu'une question de personnalité, Christelle.
Dans la vie, on a, devant des situations de vie, comme par exemple tu dis des situations de stress ou de danger, on a tous un mode par défaut qui est un peu archaïque, c'est-à-dire devant telle situation, mon mode par défaut, c'est de me mettre en colère. Mon mode par défaut, c'est d'avoir peur. Souvent, c'est des choses qui viennent de notre enfance, d'accord ? On a un mode par défaut. Et devant des situations que notre cerveau va voir comme étant similaires, il va remettre en place ce mode par défaut. Quand tu étais enfant, tu boudais devant une situation qui ne te convenait pas, et ben tu vas voir qu'en tant qu'adulte, tu vas avoir tendance à refaire la même chose. Ce qui veut dire que, du coup, tu as un mode par défaut, par exemple, qui est de bouder. Et en fait, si, tant que je n'ai pas développé d'autres modes et que je n'ai pas appris à développer d'autres modes opératoires, je vais rejouer la même. Et donc, ce que je dois apprendre, que ce soit en coaching ou en thérapie, c'est comprendre quels sont ces modes de fonctionnement par défaut et se dire que je le garde, mais il n'est pas utile partout. Je vais développer d'autres modes de fonctionnement.
Et on voit deux typologies de personnes. On voit les personnes qui, tout au long de leur vie, en fait, vont rester avec ces croyances et ces automatismes qu'ils n'ont jamais réussi à dompter. Oui. Et on voit les autres qui, en fait, savent qu'ils ont peut-être des boulets, même au pied, dans leur attitude, dans leur réaction.
On en a tous.
Et qui vont chercher, justement, à trouver des solutions pour corriger les choses en allant voir un psy ou en s'intéressant à des méthodes que je vais appeler, du coup, alternatives.
Alors, juste pour préciser là-dessus, parce que effectivement, c'est tentant de faire deux cases, encore une fois, dire qu'il y a ceux qui sont dans un mindset de croissance, entre guillemets, et ceux qui ne le sont pas.
Carole Dweck.
Et souvent, en fait, un truc que j'adore faire avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ils viennent me voir, ils me disent, et moi, je ne sais pas, faire l'international, je ne l'ai jamais fait. Développer ma boîte, je ne l'ai jamais fait. Et j'aime bien prendre le truc à l'envers et les aider à voir quand ce qu'ils essaient de faire, ils l'ont déjà fait sous une autre forme dans leur vie passée. Par exemple, ils ont peut-être créé une association, organisé des soirées, parce que le meilleur moyen de croire en quelque chose, c'est de voir que tu l'as déjà fait. Et donc, pour revenir sur ton point, même la personne qui, on pourrait penser qu'elle est négative, qu'elle n'est pas persévérante, en fait, elle l'est à un endroit de sa vie. Elle l'est peut-être pas dans sa carrière, mais elle l'est peut-être dans les relations amoureuses. Elle l'est peut-être dans ses relations amicales. Elle est peut-être au niveau de la santé. Je me rappelle d'un garçon...
Qu'on cherche tous à évoluer.
C'est qu'on a tout, que notre, même quelqu'un qu'on pourrait étiqueter comme étant la personne qui n'est pas dans la construction, en réalité, si on regarde l'entièreté de sa vie, on va trouver des ressources à un endroit. Mm. Plus vite elle le voit, plus vite elle va pouvoir le diffuser ailleurs. Je prends un exemple. J'ai beaucoup de parents qui viennent me voir en disant « Tu peux pas parler à mon ado. » Sous-entendu, mon ado a un problème. Souvent, c'est la même chose. C'est soit je vends du shit, soit je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo. Et l'étiquette qu'a le parent, c'est mon enfant a un manque de motivation. Et très souvent, je parle à l'ado, souvent sans les parents, et je dis « Ok, raconte-moi, quand est-ce que tu vois pas le temps passer ?» Et en fait, au début, il sait pas trop quoi me répondre, il pense devoir me donner les réponses normales à l'école. Et en fait, au bout d'un moment, je lui dis « Tu peux tout me dire ?» Et je me rends compte qu'il a aucun problème de motivation quand il est en train de jouer à un jeu vidéo ou draguer des nanas en boîte de nuit. Et je lui dis « Ok, qu'est-ce qui se passe en toi quand t'es en train de faire ça ? Qu'est-ce qui te nourrit ? Pourquoi tu joues à ce jeu vidéo-là plutôt qu'un autre ? C'est quoi tes stratégies d'excellence ?» Il y a une fois un ado qui me dit « Il allait à deux doigts de se faire virer à l'école. » Et il me dit, moi ce que j'adore c'est faire rire ma classe, raconter des conneries, d'où le fait qu'il va se faire virer. Je dis, mais c'est du génie de savoir, un, faire rire ta classe, deux, t'as ta prof qui dit d'arrêter, la directrice qui dit d'arrêter, et ta mère qui dit d'arrêter, et toi tu continues. C'est une forme de leadership. Pour l'instant, Elle a plein d'inconvénients, mais le fait de l'aider à voir qu'il a des ressources, pour moi, c'est le meilleur moyen en fait, de changer son état d'esprit, de se rendre compte qu'on est capable de faire des trucs.
Christelle ?
Et moi, je suis amenée à accompagner beaucoup de personnes qui sont exposées, médiatiquement ou des élites ou autres. Et j'arrive généralement moi, pour gérer les chaos. Et donc, j'ai très peu de temps pour gérer des situations. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que tu as plein de gens qui sont extrêmement brillants à plein d'endroits de leur vie, professionnels par exemple ou autres, sportivement ou autres. Mais quand... il y a un moment, quelque chose qui vient heurter. Ils vont pouvoir le dépasser, sauf qu'en fait, il y a une chose qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'est-ce que ça vient connecter de leur histoire de vie, de leur passé, d'un cheminement qui, lui, on a mis des beaux pansements dessus et n'avait pas pu être traité. Et là, on doit se poser la question, vraiment, en effet, de se dire, OK, on doit retravailler et reconstruire et cicatriser des traumatismes ou des éléments du passé qui permettent de se remettre en mouvement et de reprendre complètement toutes les capacités, les magnifiques ressources qu'on a. Mais il faut traverser ce chaos. Ce n'est pas juste de se dire « j'y crois », c'est vraiment se dire « ok, il y a des nœuds, il y a des blessures de vie, il faut cicatriser ces blessures et parfois, il faut accepter que ça prenne du temps ». Donc, il faut à la fois traiter ça et en même temps, à d'autres niveaux, traiter l'opérationnel et la pensée stratégique.
On en revient toujours un peu à ce risque un peu de burn-out, de santé mentale, où ça devient compliqué psychologiquement pour l'entrepreneur, alors qu'on peut traiter les choses un peu en amont, finalement. Vanessa.
Complètement. En fait, je rejoins ce que disait David. Finalement, tout est une question de prendre le temps de s'observer, de faire un pas de côté, d'observer comment on fonctionne, d'observer comment on prend nos décisions. Qu'on utilise un outil de dev perso ou pas, qu'on utilise une grille de lecture ou pas, tout est une question de se rendre compte et de prendre de la hauteur, comme tu l'as dit tout à l'heure, et voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas pour nous. Et ça, c'est hyper important. Donc, plus on va alerter les gens, plus on va les sensibiliser à ça, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, c'est le cœur de mon message de dire, OK, on ne peut pas standardiser le succès. On ne peut pas tous entreprendre de la même manière. Tout le monde ne tiendra pas le rythme de David. Tout le monde ne tiendra pas 50 km de trail comme Christelle. En tout cas, c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est d'aller à la rencontre de ça en amont pour essayer de gagner du temps. Je veux dire, à un moment, de gagner du temps, de gagner en efficacité, finalement, de gagner en performance aussi.
Parce que ça me renvoie à ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, dans les facteurs de stress, il y en a plusieurs. Mais souvent, le stress, ce n'est pas uniquement qu'est-ce qui se passe exactement dans ma vie, c'est aussi ce que je suis en train de faire. Il y a des activités qui vont plus ou moins être stressantes parce qu'elles ne me nourrissent pas. Et on vit, encore une fois, dans une société avec plein d'injonctions. On a tendance à s'imposer une trajectoire qui n'est peut-être pas la nôtre. Moi, je le vois, c'est-à-dire qu'en 15 ans d'entrepreneuriat, des phases où c'était plus compliqué, plus difficile, c'est aussi parce que j'ai lu un livre, j'ai vu un Américain qui parle d'une stratégie, elle ne me correspond pas tant que ça, mais je m'enferme dedans, je me force à aller dedans, versus me demander, mais en fait, moi au fond, qu'est-ce qui m'éclate ? Et quand je regarde ma trajectoire, les moments où j'ai eu les plus gros sauts, c'est des moments où je suis allé à contre-courant de ce qui semblait intuitif, par exemple quand j'ai démarré, c'était l'ère du blog. YouTube vient d'arriver, c'est l'humour. Et moi je me dis, j'ai toujours adoré la vidéo, je mise sur l'humour, les gens me disent, mais t'es un malade, c'est pas du tout un média professionnel. J'ai misé dessus parce qu'à la base, je fais du montage depuis que j'ai 13 ans. Quand je vais me dire, tiens, j'ai envie de partir aux US, les gens me disent, tu vas défocus ta boîte. Et au final, je vais revenir, ça va faire exploser ma boîte. J'adore cette idée, enfin, c'est une anecdote de Steve Jobs où il fait des cours de calligraphie, ça semble servir absolument à rien. Et lui-même va dire des années plus tard que dans le succès d'Apple, un des éléments clés, c'était les polices de caractère. Et c'est un malade, moi, bon, j'adore ce genre de personnage. Mais c'est l'espacement entre les lettres d'Apple avait rien à voir avec Microsoft à l'époque et ça a participé à cette sensation de beau qu'il y avait dans Apple. Mais ça, c'est impossible si t'es un Bill Gates. Bill Gates, il a son propre génie, mais pas du tout l'amour du design. Et donc, j'adore comme ça ces histoires de gens qui font des trucs à contre-courant, mélangent des inspirations et à un moment donné, il y a un truc qui aboutit. Pareil, pour moi, les vidéos qui, encore aujourd'hui, font le plus de vues dans les 30 derniers jours sont des vidéos que j'ai faites en me disant « Putain, j'adore ce clip de musique, ça donnerait quoi ?» d'utiliser toutes les techniques du clip de musique, c'est-à-dire tourner en enregistrement, travailler avec des compositeurs, dans mon domaine. Ça paraissait fou, à l'époque c'était 100 000 euros pour faire une vidéo, et au final c'est des vidéos qui continuent de faire le plus de vues. Mais ce genre de vidéo, quelqu'un la verrait en se disant « putain, des millions de vues, je vais faire pareil », il décéderait sur place. Parce que se lever à 4h du matin pendant 10 jours, aller tourner en studio, répéter pendant des semaines pour arriver à faire ça, sans savoir si ça va marcher, et tout ça à perte, tu vas mourir. Mais si ça t'inspire, eh ben, tu vas trouver de l'énergie. Et moi, j'invite tous les entrepreneurs à se demander comment, et ça, c'est un truc que j'adore de Naval Ravikant, qui est un entrepreneur américain, il parle de specific knowledge, comment je crée une combinaison de différentes choses qui m'inspirent. Et je les mets au milieu. Moi, par exemple, avec Paradox, j'essaie de jouer à l'intersection de psychologie, technologie et créativité. Et tous ceux qui nous écoutent, là, je suis sûr qu'il y a peut-être un intérêt pour leur industrie, mais peut-être l'histoire en plus, peut-être créer des événements. Et en s'autorisant à mixer, tu peux aboutir à des stratégies marketing qui sont bien plus différenciantes. Et encore une fois, il y a plein d'entrepreneurs comme ça qui ont cette capacité à...
Même les artistes, ils ont fait pas mal ça. Même, tu sais, Yves Saint Laurent, c'est comme ça qu'il a créé ses robes. En fait, il allait s'inspirer dans les musées. Il allait dans des domaines qui n'étaient pas du tout des domaines de mode. Et en fait, beaucoup d'artistes ont fait ce genre de choses aussi en créant un petit peu des ponts. Et parfois, on arrive aussi au principe de sérendipité, tu sais, où on arrive à créer quelque chose qui n'était pas du tout prévu de base et qui finalement est plus...
Ça veut dire qu'il ne faut pas banaliser aussi quand on sent qu'on n'a plus l'énergie, qu'on perd le goût, qu'on a
de la lassitude.
Ce n'est pas qu'une question aussi de productivité.
Ce n'est pas qu'une question de motivation.
Une question aussi de fatigue, c'est aussi une question de
sens.
Non, parce que l'entrepreneuriat, on l'a quand même beaucoup présenté comme la solution miracle à l'épanouissement, à la créativité. C'est vrai qu'on se dit finalement, non, si je suis entrepreneur, que j'écoute ce podcast et que je sens que ça fait quand même un certain temps que je commence à saturer très sérieusement de ce que je suis en train de faire, il faut peut-être identifier ce qui nous anime plus, quoi.
Et des fois, c'est des petits détails. J'ai un entrepreneur, il vient me voir, il me dit « j'arrive pas à prospecter ». Et je lui dis, mais ça serait comment prospecter si c'était fun pour toi? Et il me dit, en fait, si c'était fun, je le ferais avec un pote. Et on va changer juste ça, il passe de plusieurs semaines à galérer, tout est lourd. Et c'était pas la prospection le problème, c'est que la stratégie qu'il suivait, elle correspond pas à sa manière, à lui, d'être... c'est un extraverti, il adore connecter avec les gens, et il s'interdisait. Une artiste, on essaie de faire une stratégie business très froide, et je vois qu'elle avance pas, et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'y arrive pas. Je me dis, ce serait comment si c'était fun pour toi? Et puis, je me lèverais, je prendrais le paperboard, je prendrais des feutres, de la peinture et j'imaginerais le futur de ma boîte.
Let's go.
On fait ça. Ouais. Et bizarrement, en une heure, elle a accouché beaucoup plus d'une stratégie que ce qu'elle essayait de faire en s'imposant, encore une fois, d'être un numéro dans une classe en étant exactement pareil que les autres.
J'ai l'impression qu'il y a quand même, Vanessa, et tu vas peut-être pas me contredire, il y a un côté un peu quand même beaucoup, ce qu'on dit aux entrepreneurs aussi, c'est écoutez-vous.
Complètement. Et pour rebondir là-dessus, ça viendrait à l'idée de personne de reprocher à une voiture électrique de ne pas pouvoir faire un Paris-Marseille sur une charge. Ça nous semble évident. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entrepreneurs ne s'écoutent pas et vont essayer de le faire de la manière dont tout le monde l'impose quelque part, alors qu'ils pourront faire ce Paris-Marseille, mais avec des pauses, avec des temps de recharge, de prendre d'autres, peut-être, chemins de traverse pour arriver vraiment là où ils veulent. Donc c'est là où l'écoute personnelle, la curiosité de notre fonctionnement permet d'éviter ce qui est pour moi un poison, et je pense qu'on l'a tous vécu ici, la comparaison. De regarder, notamment sur les réseaux sociaux, d'en voir qui réussissent en une nuit, etc. Et dire, pourquoi moi j'y arrive pas? Ou, ça a l'air de cartonner, vas-y, je vais le faire à mon prochain lancement. Et puis, on se rend compte qu'on s'épuise là-dedans et on s'y éteint, quoi.
J'aime bien cet épisode parce qu'on aurait pu faire un énième épisode sur les questions de santé mentale. Et l'objectif, c'était vraiment pas ça. C'est vraiment qu'en en ressortant, on se dit, OK, il faut vraiment que je m'intéresse à la question, même si ça va. Même si aujourd'hui, je me sens bien.
Et surtout si ça va.
Et surtout si ça va. Solène, je voulais revenir sur le côté multipotentiel. Ça m'a fait penser au TDAH. Alors, ça n'a rien à voir.
Oui.
Mais j'ai entendu beaucoup de profils multipotentiels et beaucoup de gens qui se disent aussi TDAH.
Oui.
Comment ça se matérialise concrètement, le fait d'être multipotentiel? Est-ce que ça pourrit la vie? Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne le savent pas, qui le sont? Comment est-ce qu'ils peuvent l'identifier?
Moi, c'est ce que je dis aux clientes que j'accompagne, mais qui sont plus dans un cadre d'entreprise.
C'est une force, en fait.
C'est une force. En fait, vous n'avez pas de problème. Vous avez peut-être des problématiques et aujourd'hui, c'est peut-être de là qu'on va partir, mais vous n'avez pas de problème en tant que tel. Et c'est dommage de s'attacher qu'à ça, tu vois. Donc oui, c'est une belle richesse. Alors pareil, je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues sur la multipotentialité parce qu'on en a fait un peu un atout marketing et que dès qu'un profil se sent un petit peu dispersé, un petit peu trop curieux, il se dit multipotentiel et se met un petit peu tout seul dans cette case. Grand bien lui fasse, mais à la fois, c'est dommage parce que ce n'est pas...
Oui, ça devient encore le truc qu'on a...
Ça devient une case de plus.
Ça devient une case de plus.
Exactement, et ça devient quelque chose un petit peu comme les HPI, etc. En fait, ce qui est dommage, c'est que je ne veux pas invisibiliser ces profils parce que je pense qu'il y en a qui, certaines, en souffrent et c'est bien dommage. Et ne le savent pas. Et en même temps, l'idée, ce n'est pas de faire une espèce de tout doux de si tu coches ces symptômes-là, alors ça veut dire que tu es ça. C'est tellement plus complexe, en fait. Puis encore une fois, la vraie définition était liée à une notion de douance qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui. Donc, c'est pas juste une histoire de...
Mais typiquement, sur le cas des multipotentiels, quand ils identifient qu'ils sont multipotentiels, ça peut changer la vie parce qu'ils vont mettre en place aussi une organisation, des actions, une clarté, parce qu'ils savent qu'ils sont ça.
Exactement.
Et c'est encore une preuve qu'il faut s'intéresser à la manière dont on fonctionne et à qui on est dans la tête.
Complètement. Moi, c'est ce que ça a créé chez moi. Quand j'ai un peu découvert ça, disons que je me suis attachée à cette étiquette-là parce qu'en fait, elle a rassuré tellement d'années de d'errance un petit peu, tu vois.
Et en même temps, ça t'a permis de commencer à mettre un mot sur quelque chose. C'est pas quelque chose dans lequel tu t'es figé.
C'est ça, tout à fait.
Mais ça a été une première étape pour pouvoir, comment dire, te questionner sur toi.
C'est ça.
Mais plus en te jugeant, mais en étant peut-être plus curieuse de toi.
Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire permettre aux autres, de pas vous enfermer là-dedans et de faire un peu le travail inverse de déconstruction, de OK, maintenant j'ai découvert cette étiquette-là, soit, mais je vais aller déconstruire ça parce que je ne suis pas que ça. Mon identité est bien plus complexe. Donc c'est bon, c'est validé. J'ai plus rien à prouver quelque part, il n'y a pas de problème. Maintenant, on fait un peu le chemin inverse. Et c'est là où je trouve, dans cette deuxième partie, que beaucoup ne s'engagent pas. On s'engage dans la première où on se met dans l'étiquette et on a du mal à faire le travail de déconstruction parce que ça vient toucher à l'identité. Et c'est assez.
Il y a plein de choses sur lesquelles on ne s'engage pas alors qu'il faudrait s'engager sur des choses tout simples, notamment par exemple des exercices de respiration.
Oui.
L'exercice de respiration, il n'y a rien de plus élémentaire. Ça change les choses, quoi.
Ça
permet de faire redescendre la pression. Quand on a aussi des problèmes, par exemple, d'alcool, ça permet aussi de gérer ce genre de situation. Et donc, pour en avoir parlé avec différents professionnels, on me dit, voilà, c'est des choses très simples, en fait, qui font la différence. Et donc, c'est un peu cette discipline, mais ça peut être aussi passé par des lectures aussi qui permettent justement...
De respirer.
De respirer, exactement. Tout est lié.
Il n'y a pas longtemps, je lisais un livre sur l'idée du souffle, et tu vois pourquoi je te parle de ça. Comment, en fait, il parle de nous dans nos contextes. Il faisait un parallèle sur le rap et la façon dont on utilise le souffle dans le rap. Il y a des intonations particulières. Et en fait, il expliquait, mais dans le rap, donc on a un souffle précis qui est très saccadé, mais qui explique justement ce que vivent les personnes dans les ghettos et autres, là où ça commence à se construire, et que ça parle de nous dans notre souffle. Qu'à l'époque de Frank Sinatra, c'était très langoureux, mais on était dans une période ambiance très,
très
longue,
ça.
Avec le verre de whisky, ce genre de choses. Voilà. Et donc, quand on respire dans notre vie, eh bien, ça parle peut-être du contexte dans lequel on est.
Et d'ailleurs, je regardais l'autre jour « Maman, j'ai raté l'avion », qui rejoint un peu cette anecdote, où on est dans les rues de New York et ça me fait tilt. Je me dis, les gens marchent assez lentement, finalement. Mmh. Et si tu compares avec une série d'aujourd'hui tournée à New York, les gens marchent 2 à 3 fois plus vite. Et on voit le petit Kevin qui est perdu dans la foule et je me dis, bah ça, tu vas pas te faire écraser. Est-ce que vu la vitesse des gens, on est habitué vraiment à ce que ce soit un flow beaucoup plus accéléré aujourd'hui.
Mais t'as la même chose sur les respirations d'un film. Par exemple, tu prends Walt Disney, le nombre d'images à la seconde qu'il y a aujourd'hui par rapport au nombre d'images à la seconde
sur les
Walt Disney il y a 20 ans. Un Walt Disney de l'époque, tu as un sentiment de beaucoup plus d'apaisement. Mmh. Et quand tu regardes un Walt Disney d'aujourd'hui, tu as l'impression que en fait, ça te gaine pour aller dans un autre rythme. C'est intéressant
très
à prendre en compte.
Et on le retrouve dans tous les domaines. Parce que si on revient au sujet de l'entrepreneuriat, on a aujourd'hui cette quête à l'overnight success, au succès immédiat, au très vite. J'ai pas le temps, je veux des résultats tout de suite. Je comprends pas pourquoi Instagram, ça marche pas au bout de 3 mois. Alors que ces temps d'introspection sont aussi des moments de pause, de bulle. Stop, je vais aller voir un peu ce qui est en train de se jouer là.
Hyper intéressant. Et il nous reste 1 minute pour finir, pour terminer ce 4e épisode du podcast des indépendants. Un mot, un conseil, David ?
Donc, mon dernier mot, c'est d'apprendre à aimer la part de soi qu'on a plus de mal à aimer. Pour certains, on va dire celui qui ne performe pas. Pour d'autres, c'est l'égoïste. Par exemple, en tant que chef d'entreprise, on est monté à 90 personnes. Je pense que j'ai dû, en 10 ans, licencier 70 personnes. C'était très dur. Moi, j'étais attaché à être le gentil. Et donc, mes premiers licenciements, je dormais pas. Et ça m'a demandé d'apprivoiser différentes facettes de moi. L'entrepreneur, il est exposé à ça. Embrasser sa part performante, sa part qui rate, la part généreuse, la part égoïste, la part qui est dans l'écoute, mais aussi la part qui dit en fait stop et qui est plus ferme ou qui est peut-être même absente parfois. Je pense que c'est essentiel pour une performance et du bien-être en même temps.
Vanessa ?
Le succès peut pas être standardisé. Qu'il est forcément sur mesure et qu'il va passer par la compréhension de toutes nos facettes, de notre fonctionnement, d'aller regarder là où on n'a pas envie d'aller regarder parce que, comme le dit cette citation, c'est là que la magie réside. Et c'est vraiment ça qui va amener ce finalement à quoi on aspire, c'est-à-dire ce succès dans lequel on s'épanouit, on s'éclate et on a du plaisir à y retourner chaque matin.
Christelle, un dernier mot ?
La permission. Pour un entrepreneur, pour moi, il navigue ce que j'appelle à haute altitude. Ça veut dire qu'à haute altitude, quand on est en haut, on manque souvent d'air. Mmh. C'est là où sont souvent les entrepreneurs parce qu'en fait, il y a beaucoup de pression à plein d'endroits, personnel, professionnel. Et donc, être à haute altitude ne veut pas dire qu'en fait, on est au-dessus des autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est vraiment se dire qu'en fait, quand on est en haut, l'air se raréfie. Et comment on gère l'air, quand l'air se raréfie. Bah, il faut se redonner justement des permissions, lever certains interdits pour justement pouvoir réoxygéner son espace. C'est pas magique, parce qu'un entrepreneur, tout ce qu'on vient de dire là, hein, c'est joli, hein, mais si on est tous ici autour de la table des entrepreneurs, on s'est tous cassé la gueule, et il y a des moments où on a eu besoin de regarder les interdits, les permissions qu'on ne s'était pas données, pour justement se dire, ok, celle-ci, il faut que je me la donne.
Solène, un dernier mot.
Je vais m'adresser aux multipotentiels, étant donné que j'ai amené le sujet tout à l'heure, mais quand on se reconnaît un peu dans ce profil-là, on a tendance à confondre un peu sa propre identité avec l'identité de son entreprise. Donc, ça serait un petit conseil pour ces profils-là. Je sais qu'on se sent un peu tous multiples, qu'on a envie d'embrasser toutes les parts de soi, mais quand on bâtit une entreprise, malheureusement, quelque part, on ne peut pas mettre toute son identité dans la boîte. Donc, c'est un peu le paradoxe. Mais sinon, ça ne ressemble plus à rien, parce que une entreprise a quand même des fondations et des choses à respecter. Exactement. Il y a quand même un positionnement, il y a quand même quelque chose. Donc, ça serait un peu le conseil. Et en même temps, s'il y a des profils qui se reconnaissent dans la multipotentialité, d'aller s'intéresser aux travaux d'Anaïs Nin, qui en a pas mal parlé, alors qu'il ne posait pas le mot multipotentiel, mais qui parlait vraiment de cette faculté à embrasser toutes les parts de soi, toutes nos nuances, toutes nos contradictions, qui était vraiment cette femme multiple. Sylvia Plath aussi, Virginia Woolf, etc. En fait, dans la littérature, on a quand même pas mal de figures qui finalement n'ont jamais vraiment posé ce mot, mais qui se sont intéressées un peu à la multiplicité de l'être et à cet épanouissement.
À sa complexité aussi.
Exactement, tu vois. Et à cet épanouissement là-dedans, dans ce fait d'être multiple et de toucher aussi à pas mal de choses, tu vois.
Et ce qu'on entend, c'est en tout cas, c'est encore une fois, intéressez-vous à ces travaux. Ça veut dire aussi s'intéresser à soi et à mieux comprendre comment on fonctionne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce 4e épisode de la saison 4 du podcast des Indépendants. Merci. J'espère qu'il vous aura permis de prendre un peu de hauteur par rapport à votre fonctionnement, à vous questionner pour vous sentir mieux, en fait, tout simplement, et épanoui dans votre activité. Je vous rappelle qu'on se retrouve un jeudi sur deux sur BFM Business, évidemment, avec un nouvel épisode. À bientôt.
C'était le podcast des Indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.